Eh bien, bonsoir donc à toutes et à tous. La CGA, donc la coordination des groupes anarchistes, son émission de tous les mercredis de 20h à 21h, Idées Noires. Et on va commencer d'ores et déjà par quelques annonces.
Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, petite annonce. Alors, quelque chose qui s'est passé il y a pas très longtemps, mais on va en reparler parce que ça, on espère que ça va prendre un peu d'ampleur. Il y avait un appel à rassemblement tout à l'heure à 18h30, impasse Flessel devant les bains-douches pour les vœux de la mairie du 1er arrondissement. Parce qu'il y a une menace de fermeture des bains-douches municipaux de Flessel par la mairie centrale de Lyon. Et en gros, il y avait un rassemblement qui était appelé pour dire que les habitantes et habitants n'étaient pas d'accord. On rappelle que les bains-douches sont un service public donnant accès à des conditions minimales d'hygiène pour les personnes qui n'ont pas d'équipement sanitaire, à savoir douche, baignoire, eau chaude, chez eux, ou pour les personnes qui sont à la rue temporairement ou non. Ils sont également un lieu de lien social. Pour des raisons, et là vraiment entre guillemets, d'économie de gestion, la mairie de Lyon a décidé la fermeture des bains-douches de la Croix-Rousse. Il ne reste alors plus pour toute la ville de Lyon que l'établissement situé dans le 7e arrondissement de Gerland, contraignant les usagers à de longs déplacements pour se laver. Donc l'îlot Flessel abrite également le théâtre associatif, le lavoir public, ainsi que la salle associative des ovalistes qui serait susceptible d'être fermée également. Dans un quartier donc qui se gentrifie, pardon, il faut préserver la mixité en maintenant ce service public à destination des personnes précaires. La vie de quartier a également besoin de ses locaux associatifs. C'était signé donc le collectif d'habitants pour, entre parenthèses, le développement des bains-douches municipaux. Il y a un contact collectif bains-douches Lyon, tout attaché, avec bains au pluriel et douches au pluriel, @riseup.net. Donc il y avait un peu de monde à ce rassemblement.
Donc vu, une bonne centaine
voilà,
de personnes.
Voilà, ouais, 100, donc, il y a pas de monde. Après, il y avait des gens qui étaient là aussi pour les vœux de la mère du premier. Donc voilà, on sait pas trop après. Mais il y a quand même du monde qui a chahuté un peu le truc, notamment quand normalement, voilà, Gérard Collomb doit venir au vœux d'arrondissement, chaque arrondissement. Bon, ça fait plusieurs années, je crois qu'il vient pas à ceux du premier parce qu'il sait qu'il va être chahuté un petit peu et que comme il a peur du peuple, là, ce bon vieux Gérard, et ben, du coup, il ne vient pas. Là, c'était le cas. Donc il avait une excuse, a priori, il avait un certificat médical.
Un pet de travers.
Mais a priori, quelqu'un l'aurait aperçu au stade des Lumières samedi dernier. Donc voilà, il choisit aussi les lieux où il va, quoi. Voilà. Donc c'était le maire du 4 qui est venu, donc qui est son premier adjoint. Donc il s'est fait un peu chahuter très gentiment. Hein. Ça veut dire que de temps en temps, il a été interrompu dans son discours de merde. Bon voilà, c'était pas très grave non plus. Donc voilà, donc à suivre parce que voilà, ça reste effectivement un lieu de lien social et qui permet. Enfin voilà. J'ai rencontré du coup quelqu'un du coup de très proche qui m'a raconté que quand elle était petite, il n'y avait pas de douche dans les appartements à l'époque et donc du coup ils allaient aux bains douches. Voilà, donc c'est quelque chose qui doit rester ouvert et qui doit se développer, qui doit être, le truc doit être rénové parce que c'était une des excuses de ce maire du 4e, c'était de dire que comme les locaux étaient vétustes, valait mieux le fermer, c'est super. Enfin, ils ont quand même rénové une piscine qui a coûté je sais pas combien de millions, où le prix d'entrée l'été c'est 8 euros, donc la chasse aux pauvres a été faite là-bas aussi, et donc ils n'ont pas de sous par contre pour rénover les bains-douches qui servent aux plus démunis. Donc voilà, en espérant que le collectif va prendre de l'ampleur, que ça va se bouger, qu'à la fin ils gagneront gain de cause sur
On peut rappeler aussi le pensionnat Favre aussi.
Ouais, enfin il y a tellement de trucs quoi, sur les pentes, voilà, l'internat Favre qui n'y a pas très longtemps que ça.
De ses élèves, oui, c'est de 2015.
Hein. Voilà, le fameux collège Truffaut aussi, voilà, qui reste inoccupé. Enfin, il y a plein de choses, voilà, qui mériteraient, mais c'est tout apparemment des choses qui sont du ressort de la mairie centrale, donc de GG. Autre annonce, du coup, pour ce qui va se passer à la pluie noire d'ici à la fin du mois. Donc, mis à part les permanences des mercredis et des samedis, il y aura trois trucs de prévu avant la fin du mois. Le vendredi 22 janvier, une soirée organisée par la commission jeunesse de la coordination des groupes anarchistes qui s'appelle Jeunes et Anards, projection concert. Donc il y aura projection repas à partir de 19h, donc avec le doc Je lutte donc je suis de Yanis Younountas. Une présentation du Front Jeunesse, les luttes sur Lyon, voilà, ou quand comment, avec après concert à 21h, les Leprechaun, c'est du reggae folk irlandais. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Et Stokas du rock, qui était déjà venu en fin d'année dernière, sous pas mal de reprises, notamment des Rage Against the Machine, donc c'est pas trop mal. Et donc ça se passera donc à la Plume Noire. Voilà, ça c'est pour la première soirée. La deuxième, ça se passera le vendredi 29 janvier à 18h30. Alors c'est un peu tôt, mais on peut pas faire autrement par rapport à l'intervention qui va être faite. Donc ce sera toujours à la Plume. Voilà, rencontre militante avec Sayat Tekir, qui est porte-parole du mouvement arménien Nord-Zartong à Istanbul. Le comité de soutien Nord-Zartong en France, et voilà, il a siégé à Lyon. Donc voilà, une rencontre avec tout ce beau monde. Et un point sera fait sur les luttes arméniennes, la lutte des minorités en Turquie, et un point sur la situation actuelle pour présenter un peu Nord-Zartong. Donc Il est également très impliqué dans les luttes pro-kurdes, féministes, LGBTI, antiracistes, antimilitaristes, écologistes, etc. Sayad Tekir est en tournée en France et est à Lyon donc le 28 et le 29 janvier. Donc c'est l'occasion de se rencontrer pour s'informer et lier des luttes ici et là-bas. Donc l'horaire c'est 18h30 parce qu'en fait en gros il doit partir, il a un train après dans la soirée, donc on fera 18h30, 21h je crois, donc soyez bien à l'heure. Et une petite présentation politique donc de Nord Zartonk, qui se traduit comme le nouveau réveil. Basé en Turquie, nous luttons pour les droits du peuple arménien et ceux de tous les peuples du monde pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Nord Zartonk lutte pour la justice, pour la démocratie, la paix, lutte pour le droit des peuples à l'autodétermination, défend la liberté d'expression et d'opinion, défend le principe fondamental de la liberté d'association, lutte contre le nationalisme, le militarisme, le racisme et contre toutes les formes de discrimination, lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, rejette la gérontocratie de décision des adultes sur la jeunesse, refuse d'être une organisation basée sur une structure ou une gestion hiérarchique, voilà, dans sa tente, la jeunesse libre. Donc voilà, et pour finir ces annonces, il y aura également le samedi, donc le lendemain, le samedi 30 janvier, à la Plume Noire toujours, un après-midi et une soirée basée sur le droit d'asile, donc avec une formation qui va être proposée par une camarade de Marseille qui milite au collectif Migrants là-bas, Migrants-Migrantes. Donc il nous fera un petit point sur le 8 à Marseille, qui va nous faire une formation donc sur le droit d'asile. Il y aura la projection de petits documentaires réalisés par ce même collectif. Si on trouve après, il y aura un petit concert, une petite bouffe, etc. Et donc ça se passera ça le samedi 30 janvier. Donc voilà, programme bien rempli pour cette fin de mois.
Alors j'ai une annonce également. Ouais. Moi, c'est une réunion publique très importante, puisqu'il s'agit de la liberté de circulation. Liberté de circulation pour tous et toutes les réfugiés, migrants et migrantes. Une réunion publique donc dont nous sommes signataires, puisqu'il y a une pléthore d'organisations syndicales, politiques, associatives et tout qui ont signé. C'est une réunion publique qui se passera à la Bourse du Travail, à la salle des congrès, place Guichard, dans le 3e arrondissement. Le métro, est-ce bien de le rappeler, c'est quand même Guichard aussi, voilà. Donc cette réunion publique comportera une information sur les dernières lois concernant les réfugiés et migrants et migrantes et conséquences de l'état d'urgence. Ça sera animé en partie par Maître Fréry, avocate spécialiste du droit des étrangers et des étrangères, et aussi revoir un peu quelles actions pour organiser la riposte en solidarité avec les réfugiés, les migrants et les migrantes et les sans-papiers. Donc réunion publique mercredi 20, donc le mercredi prochain, à 18h30, Bourse du Travail, salle des congrès. On vous y attend, tous et toutes nombreux et nombreuses. Voilà. On va attaquer une première page de.
Ouais, une petite première page. Voilà. Donc, on va essayer d'aborder un petit peu ce qui s'est passé du coup à Cologne. Donc, c'est pas évident parce qu'on entend un peu tout là-dessus, que l'extrême droite l'utilise grandement, que c'est très difficile du coup de parler un petit peu sur le sujet parce qu'évidemment, les faits sont évidemment condamnables. Mais du coup, tout ce qui s'ensuit derrière, toute cette affaire politique qui est montée du coup sur les réfugiés et les migrants, par contre, est bien dégueu. Donc du coup, vous avez sûrement entendu ce qui est parlé, donc voilà, beaucoup d'agressions la nuit du réveillon là-bas à Cologne et dans d'autres villes aussi. Alors, il n'y a pas forcément d'analyse sur ce qui s'est passé, mais on trouvait du coup deux petites choses sur des blogs, voilà, qui semblaient assez intéressants, du coup, qui revenaient uniquement sur les faits et qui arrêtaient du coup de que ça monte en sauce, etc., etc., parce qu'on a tous été confrontés, je pense, ces jours-ci à des gens du coup qui forcément sont offusqués comme nous, voilà, sur ce qui s'est passé, mais qui derrière, voilà. Faisait beaucoup d'amalgame, voilà, sur les migrants, sur les réfugiés, sur les Arabes en général, voire sur les musulmans, voilà, comme d'habitude. Et donc, du coup, voilà, donc quelques faits, voilà, puis on verra après plus tard si dans les semaines qui viennent, s'il y a une analyse qui ressort tout ça. Voilà, donc c'est un blog trouvé, alors je sais plus, j'ai plus le nom du blog, je suis vraiment désolé, avec un truc qui a été posté donc le 10 janvier, donc ça revient. Il y a 2-3 jours, donc il y a peut-être des choses qui sont plus trop à jour et je m'en excuse. Mais donc voilà. Voilà ce que dit cette personne-là. J'ai jusqu'ici refusé d'évoquer les événements de Cologne parce que jusqu'ici, on n'a aucune information correcte en Belgique, donc c'est une Belge, hein, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on peut affirmer et sur les sources des infos, entre guillemets, qui circulent. Voilà, mais comme les seuls à les brandir quand même, à part les médias qui se contentent de dépêches, ce sont des gens d'extrême droite ou qui véhiculent, même sans le savoir, des idées d'extrême droite, je me suis penché sur ce dossier en commençant par élever quelques énormités. Voilà, certains parlent de plus de 1000 agressions sexuelles commises le 31 décembre, des sites d'extrême droite précisant même dans les centres d'asile. il y aurait eu, d'après la commission spéciale allemande, donc 516 plaintes à ce jour, tout en sachant que l'extrême droite aussi diffuse de fausses photos. Hein, donc là, il suffit de se rendre sur des médias, même des médias assez larges, hein, type Le Monde, hein, pour retrouver du coup déjà quelques fausses rumeurs, quelques fausses photos avec une femme, voilà, qui serait fait taper par 10 gars. En fait, on se rend compte que cette photo n'a pas été prise en Allemagne et qu'en fait, c'est pas une meuf, mais c'est un gars. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui circulent totalement fausses. Il y a aussi, donc, toutefois, des plaintes ont été également enregistrées dans d'autres villes, notamment à Hambourg et à Francfort. On sait qu'aussi à Vienne, en Autriche, a priori. Ces plaintes concernent des vols et des violences physiques. À Cologne, ces agressions ont été commises à la faveur de festivités, de feux d'artifice et de l'afflux de touristes pour le réveillon près de la gare. Il s'agit principalement de vols à la tire et de vols par la ruse. Des gens se sont fait piquer leur portefeuille, leur smartphone. On parle de cas d'agression sexuelle parce que la ruse consiste à harceler les femmes pour les distraire et leur piquer leurs affaires. Ainsi, à Cologne, 2 plaintes pour viol ont été enregistrées suite au 31 décembre et toutes les autres concernant des vols, dont 40%. Avec harcèlement. Voilà, selon la police de Cologne, il y avait plus de 1000 hommes étaient rassemblés devant la place de la gare. Voilà, mais toutes, bien sûr, n'ont pas harcelé ou volé des femmes. Il y a quand même 500 plaintes. Hein. Les voleurs, par contre, voilà, donc c'est intéressant, sont recrutés un peu partout par la criminalité organisée. Celle-ci recrute, bien entendu, là où c'est le plus simple. Visiblement, les centres d'accueil surpeuplés par des personnes qui ont dû se débrouiller pour survivre sont une excellente cible. Donc la police devrait donc protéger ces centres de cette criminalité qui recrute ses exécutants. Toutefois, voilà, le ministre de l'Intérieur là-bas, ICOMAS, a précisé aujourd'hui qu'il existait des données statistiques sur le taux de criminalité auprès des réfugiés. Elles démontrent que ce taux est égal à celui des Allemands et des Allemandes. On peut dire aussi qu'il y a eu un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu des ornières pour les Allemands qui pensaient ou qui n'abordaient pas la question des sans-papiers. En gros, ils pensaient que quand les gens, on leur refusait l'asile, bah, ils rentraient gentiment chez eux. Donc, il se trouve qu'il y a énormément aussi de sans-papiers en Allemagne, mais que personne ne s'en occupe vraiment. Donc, c'est des personnes, du coup, qui sont sans ressources. Et pour la criminalité organisée, c'est aussi du pain béni. Le chiffre de 1006 personnes impliquées est cité à titre divers. En ce qui concerne les faits à Cologne, 30 personnes auraient été identifiées. Donc voilà, on se demande donc comment on sait qu'ils étaient 1000. Et parmi ces 30, jusqu'à présent, donc il y aurait 19 migrants. Voilà, elle revient après sur effectivement qu'il y a eu 1006 délits enregistrés en Saxe entre le 1er janvier 2015 et le 30 novembre 2015 qui concernent des réfugiés. Mais du coup, on a vu tout à l'heure par rapport au stade qu'il y a autant, en fait, que ce taux est égal à celui des Allemands et des Allemandes. Concernant les brutalités, à savoir des vols, des infractions à la liberté et des coups et blessures, il y a eu 320 000 faits de ce genre enregistrés par an en Saxe. Donc la source de cette information, ça a été une question parlementaire forcément du parti populiste d'extrême droite, à laquelle le ministre de l'Intérieur de la Saxe a répondu il y a quelques jours. Voilà, dans ce cas précis, bon nombre de délits commis par des réfugiés, pas tous les délits précités donc, sont commis à l'intérieur des centres d'accueil. Les victimes des migrants délinquants sont aussi donc des réfugiés. En Saxe, le nombre de demandeurs d'asile a triplé en quelques mois et les infrastructures sont déplorables, ce qui rend leur gestion extrêmement problématique et le recrutement en leur sein extrêmement aisé. À noter que depuis la vague de réfugiés, on a enregistré une augmentation aussi des agressions contre les centres d'accueil. On y est pas mal revenu ces dernières émissions. Hein. 817 au 7 décembre 2015 contre 199 en 2014, commises pour la plupart par des gens d'extrême droite, incendies, attaques à coups de pierre et de battes de baseball. Et que c'est cette même extrême droite qu'émanent la plupart des fausses informations au sujet des agressions à Cologne, dont fondamentalement on ne sait pas grand-chose à ce stade. Voilà, on a noté aussi qu'en Belgique, où quelques bagarres ont certes mobilisé des forces de l'ordre dans des droits d'asile, on n'a noté aucun fait de ce genre depuis l'afflux des réfugiés. Voilà, faire le lien entre les informations émanant de Saxe, transmises, transformées et diffusées par l'extrême droite et les réfugiés se trouvant en Belgique relève donc de la pure malhonnêteté intellectuelle. Donc voilà un petit peu pour ce petit blog. Et j'avais trouvé d'autres choses aussi intéressante, du coup, accuser toutes ces personnes en tant que réfugiés ou faire peser leur responsabilité sur l'ensemble d'un groupe humain, révèle en revanche, d'un racisme pur et simple, hein. C'est en effet le propre de la xénophobie de prendre un membre d'une communauté étrangère ou minoritaire pour son tout. Il revient sur l'exemple, on l'avait déjà fait nous aussi, de la tragédie du Utøya en Norvège le 22 juillet 2011, perpétrée par Anders Behring Breivik, à la suite de laquelle 77 personnes ont trouvé la mort. Il n'est venu à l'esprit de personne d'accuser les Norvégiens en général, ni les Blancs. Le lien avec son idéologie ultranationaliste qu'il revendique lui-même a lui été fait à raison. Les personnes sont comptables de leurs idées et de leurs actes, elles doivent être poursuivies. C'est ce que pense ce gars-là. Voici aussi contreviennent à la loi qui en note dans le pays, hein, et non pour ce qu'elles sont au nom de leur apparence réelle ou supposée, ou même à un groupe. Donc voilà, voilà pour ces petites infos, voilà sur ce qui s'est passé un petit peu à Cologne. Voilà, en espérant non plus que ça prenne pas des proportions énormes. Voilà, ouais, pardon, ouais, il y a le bar du Deveux du premier qui vient d'arriver. Formidable. Et donc du coup voilà, en espérant voilà, parce que ça prenne pas non plus des propensions. Forcément, nos amis l'extrême droite lyonnaise ont sauté sur l'occasion, comme toutes les composantes de l'extrême droite nationale, pour faire un petit défilé l'autre soir. Hein. Voilà, bah, heureusement ils étaient pas très nombreux. Hein. Ils étaient limite une petite quinzaine, je crois, avec leur banderole forcément sur les quais de Saône. Mais voilà, en espérant que ça réveille pas, parce qu'ils étaient plutôt endormis en ce moment, c'était plutôt bien. En espérant que ça ne réveille pas trop et qu'on ne voit pas nous faire chier dans la rue. Fréquemment. Donc voilà pour ces premières petites infos. Je fais le tri dans mes pages hein, parce que du coup j'avais encore autre chose à dire. Vous m'excusez deux petites secondes. Hein, je recherche. C'est
ici. On vous en prie. Allez.
Donc du coup c'était pour revenir un petit peu. On avait fait quelques fois sur les deux dernières émissions ces petites plaquettes là, répondre aux préjugés sur les migrants et les migrantes justement. Et donc du coup là, il y a la quatrième petite plaquette qui est en accès libre sur Internet. Et donc c'était par rapport du coup aux migrants-migrantes. Et un des préjugés qui était aussi, c'était ils profitent des aides. Donc voilà, donc petite citation voilà d'une tante raciste, hein, toujours pareil. Entre les migrants qui viennent en France pour profiter de notre système de santé, les immigrés qui entre guillemets pondent des enfants chaque année pour vivre des allocations, et ceux qui bénéficient de toutes les aides sociales sans jamais payer un seul impôt, ces gens-là ont vraiment tous les droits en France, bien plus de droits que les Français de souche, qui eux travaillent dur, se lèvent tôt et peinent pourtant à joindre les deux bouts. D'ailleurs, les étrangers sont les grands favoris de nos politiques. Il n'y a qu'à voir qui est prioritaire dans l'attribution des logements sociaux chez nous, hein, toujours les mêmes. Donc voilà, difficile d'arrêter la fameuse tante française hein, qui est prise en exemple à chaque fois, quand elle se lance dans un discours aussi venimeux à l'encontre des migrants. Pourtant, ses certitudes sont fausses. Les chiffres disent le contraire. Pour que les étrangers, entre guillemets, fraudent et le système social français, il faudrait déjà qu'ils puissent y accéder. Voilà, souvent, c'est un vrai marathon qui s'engage. Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le fameux RSA, un étranger doit avoir un titre de séjour et une carte de travail depuis au moins 5 ans. Pour toucher le minimum vieillesse, il doit être en France depuis au moins 10 ans. Et cela se complique pour les étrangers en situation irrégulière. La majorité des sans-papiers qui travaillent ont des fiches de paye et sont assujettis à l'impôt, aux taxes et aux cotisations sociales, alors qu'ils ne bénéficient d'aucun des droits qui y sont rattachés. Ils n'ont pas l'assurance retraite, pas droit aux allocations chômage et ne peuvent pas prétendre au parc locatif social. Ceux qui finissent par obtenir leur régularisation ne bénéficient pas de ce qu'ils ont versé auparavant. L'idée que les migrants ont des flopées d'enfants pour vivre des allocations ne tient pas non plus la route. Chez les femmes nées en dehors de l'Union européenne vivant en France, le taux de fécondité en 2008 était de 3,1. Pour la même période, ce taux est de 2,01 pour l'ensemble des femmes en France. Cet écart n'est pas aussi significatif qu'on voudrait nous le faire croire. Les familles nombreuses, françaises comme étrangères, touchent des allocations familiales, mais quand on compare la valeur de celles-ci avec les coûts liés à l'éducation des enfants, on voit bien qu'élever des enfants coûte plus que cela rapporte. Enfin, par rapport au logement, si les immigrés sont plus présents dans les logements sociaux, c'est surtout à cause de leur situation économique. Le taux de chômage des immigrés nés hors de l'Union européenne est de 20% en 2011. La moyenne nationale est de 9%. Et ils occupent plus souvent les professions à bas revenus. 3 immigrés sur 10 occupent un emploi non qualifié en 2007. Pourtant, dans la région Île-de-France, plus de la moitié des ménages immigrés, 53%, occupent une location privée, malgré les prix élevés des loyers, alors que 20 à 30% résident dans un logement social. Voilà, 6% des ménages immigrés résident à l'hôtel, occupent une chambre de service ou encore une habitation de fortune dans des conditions insalubres. Toujours selon l'étude de l'INSEE sur l'accès au logement des immigrés à Paris, 12% des immigrés déclarent cette vue refuser un logement à l'achat ou à la location sans raison valable au cours de ces 5 dernières années. On pense bien que c'est sûrement par rapport à leur nom. Bien souvent aussi, ils se voient refuser l'accès aux logements sociaux. L'argument de l'impératif de, entre guillemets, mixité sociale est utilisé pour ajourner certaines demandes de familles immigrées. Une étude réalisée en 2001 par le groupe d'études et de lutte contre les discriminations apporte la preuve que des critères ethniques et raciaux sont pris en compte dans la sélection des candidats au logement, bien que cela soit interdit par la loi. Il y avait ensuite un truc sur le soin. Donc, désolé, je recherche la fin de ma petite page. On va essayer. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on le fera pas. Si je l'ai. La plupart des étrangers vivant en France travaillent et cotisent pour la sécurité sociale. Pourtant, pour les étrangers malades et sans ressources, il est très compliqué d'accéder aux soins. Les caisses d'assurance maladie compliquent la délivrance des attestations de leurs droits à l'AME et ou à la CMU. Il arrive parfois que des personnes très malades ne pouvant accéder aux soins dans leur pays obtiennent la permission de venir se soigner en France où les traitements sont plus accessibles. Depuis 98, un droit à un titre de séjour existe en France pour ces personnes. Il ne leur offre pas forcément la gratuité des soins. mais leur permet d'avoir une couverture sociale. 28 000 personnes étaient dans cette situation en France en 2008, soit à peine 1% des étrangers étrangers en situation régulière. En juin 2011, la France a voté une loi qui enfonce le couteau dans la plaie des malades étrangers. Désormais, seuls les malades pour lesquels le traitement est absent, entre guillemets, hein, dans leur pays d'origine sont protégés contre l'expulsion. Même si l'expulsion... Oh, j'ai perdu ma phrase. Voilà, qui enfonce le clou. Même si beaucoup de traitements sont théoriquement présents, entre guillemets, partout dans le monde, de nombreux malades continuent à ne pas y avoir accès pour des raisons de coût, forcément, de quantité et d'accessibilité. Le retour forcé de personnes malades dans leur pays d'origine équivaut, dans certains cas, à une condamnation à mort. Les immigrés... En fait, dernier point, les immigrés ne vident pas les caisses de l'État comme on voudrait nous le faire croire. Au contraire, ils les remplissent. Ils participent à l'effort de solidarité nationale en versant plus de 60 milliards par an de cotisations sociales, d'impôts et de TVA. En comparaison, les allocations qu'ils touchent s'élèvent à 48 milliards, en fait, la comparaison. Décomposée de la manière suivante, retraite 16 milliards, prestations de santé 11 milliards, allocation familiale 6 milliards, allocation chômage 5 milliards, éducation 4 milliards, aide au logement 2 milliards et RMI 1 milliard, soit un solde net de 12 milliards qui bénéficie directement au pouvoir public. Ils sont aussi les principaux financeurs du développement. En 2010, ils ont versé 325 milliards de dollars à leur pays d'origine. C'est deux fois et demi le montant global de l'aide publique au développement pour cette même année. Les politiques répressives de nos gouvernants en matière d'immigration coûtent aussi très cher aux contribuables. Le coût moyen d'une expulsion en France est de 26 000 euros. À raison de 30 000 expulsions par an, le coût de cette politique atteint 780 millions d'euros. Créée en 2005, l'agence Frontex, chargée de coordonner les opérations de contrôle aux frontières de l'Union européenne, a vu son budget annuel se multiplier par 15 en 5 ans, pour atteindre 85 millions d'euros en 2013. Elle emploie 220 personnes et reçoit 80 millions d'euros de budget annuel de l'Union européenne. L'immigration constitue depuis toujours un fait historique naturel, complexe certes, mais qui, loin d'être une calamité pour les pays de résidence, constitue un apport économique, social et culturel inestimable. Donc voilà pour cette petite fiche, répondre aux préjugés la semaine prochaine peut-être, ou la semaine d'après. Prochain préjugé auquel ces petites fiches répondent, l'immigration renforce le chômage et la crise. On verra bien tout ça. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour le moment.
Comme tu veux.
20h24, oui, je vais lâcher Crash War. On va faire une petite pause musicale.
Quand c'est parti, puis... c'est parti.
Ouais, ouais. Moi je m'arrête plus après. Donc voilà, bah, petite pause musicale du coup.
Alors une pause
musicale. Avec du rock, du vrai. Non, je déconne. Non, je plaisante.
Ah, un petit peu de poète quand même dans notre émission. L'éventail est large de nos musiques intercalées dans nos pages d'information. Donc on va écouter Souchon avec une question qui est posée par Souchon. Qu'est-ce qu'ils ont
Vous avez du mal.
Ouais.
Ça va.
J'ai du mal, ouais, aussi. Ouais.